Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. Comme chaque lundi, nous sommes heureux de vous retrouver et de partager avec vous un enseignement à la fois pour recharger vos batteries, pour grandir, vous inspirer et avoir une vie pleinement épanouie. Êtes-vous prêt? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à la découverte de soi.
Avant que Dieu ne fasse d'Abraham une source de bénédiction, Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être en bénédiction aux autres si vous-même vous n'êtes pas béni. Dites Amen. Vous ne pouvez pas être une source de laquelle sort, jaillit la bénédiction si vous n'avez pas la bénédiction en vous. Et quelqu'un a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. D'ailleurs, c'est dit différemment dans vos Bibles. Après avoir dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, la Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'avant d'aimer les autres, tu dois t'aimer toi-même. Quand vous lisez les Saintes Écritures et qu'on vous parle du livre des commencements, le livre de Genèse, au chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et les versets qui succèdent, qui suivent ce verset, Dieu... La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez, remplissez. Vous devez donc noter que pour que l'homme soit tout ce que Dieu a prévu qu'il soit, l'homme a besoin de la bénédiction. Dieu travaille sur un environnement, Éden, le jardin d'Éden. Il y a un fleuve où ce n'est pas de l'eau, mais c'est de l'or. Parce qu'il y a quatre fleuves, mais l'un des fleuves, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'or. Il y a de la nourriture. Le péché n'est pas encore rentré dans l'humanité. Mais sauf que Dieu est conscient que l'homme ne peut pas être tout ce qu'il doit être s'il n'est pas béni. Ça veut dire que vous ne pourrez pas vivre votre vie sur la terre à succès, sans bénédiction. Non, je sais que nous vivons dans une société, en tout cas pas ici, mais normalement, dans une société où la méritocratie est mise en exergue. À la sueur de ton front, tu mangeras. Mais je veux dire à quelqu'un que transpirer ne suffit pas. Il y a des choses qui ne s'acquièrent pas par la force de ses bras, mais par la bénédiction que Dieu donne. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Avant même que l'homme n'ait son premier enfant, Dieu doit lui dire, tu es béni, et la bénédiction c'est, sois fécond, multiplie-toi, remplis et assujetti. La bénédiction n'est pas un bien matériel, la bénédiction est une parole. Vous n'êtes pas béni parce que vous avez une voiture. Vous n'êtes pas béni parce que vous avez une maison. La maison n'est pas la bénédiction. La maison peut être la conséquence de la bénédiction. Donc si tu veux savoir si tu es béni, ne regarde pas à tes possessions. Regarde à ce que Dieu dit de toi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? À partir de Genèse, donc, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénit différents individus qui le rencontrent le long du chemin. Et on arrive à Genèse 12 où Dieu bénit Abraham. Jusqu'à Abraham, le seul détentaire, propriétaire de la bénédiction, c'était Dieu. Après Abraham, Dieu commence quelque chose de différent. Oui, Dieu a le pouvoir de bénir. D'ailleurs, on croit que quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Mais sauf que Dieu décide de déposer en Abraham une bénédiction dont il sera le dépositaire, le propriétaire, et qu'il devra transmettre à sa descendance. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Il va très loin, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que Dieu a fait le choix de mettre en Abraham quelque chose qu'il n'allait plus donner aux gens lui-même, Dieu. Mais si les gens voulaient la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, il faut, ou il fallait qu'ils se connectent à Abraham. Vous m'entendez? Tout le monde et je sais que vous prenez des notes, mais tout le monde n'a pas le pouvoir de bénir tout le monde. Le livre de Proverbes révèle que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais c'est vrai aussi pour la bénédiction. La bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tout le monde ne peut pas te bénir, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde ne peut pas te maudire. Pour que la malédiction prenne, il faut qu'il y ait une cause. Quand je parle de la bénédiction qui transite par Abraham, je parle de l'alliance. C'est le livre de Daniel, si on peut mettre le verset sur l'écran. Daniel 11, 32. Pourquoi je mets ce texte devant vos yeux? Parce que je veux que vous compreniez qu'il y a un type de bénédiction qui ne se trouve que dans l'alliance. Je veux ouvrir une parenthèse là, puisqu'on a des mariés. Il y a une différence entre le concubinage et le mariage. Les mêmes corps, sur le même lit, dans la même maison, vivant ensemble, n'ont pas la même bénédiction que des gens qui sont mariés. C'est invisible. Pour certains, ce n'est qu'une cérémonie. Mais pour les hommes et les femmes spirituelles, c'est une alliance. Et il y a un type de bénédiction que tu n'auras jamais dans le concubinage, dans le paxage, dans le copinage, dans les tout et âges. Tu n'auras pas, à part dans le mariage. Donc, toi qui aimes étudier les gens, toi qui aimes être étudié, il faut que vous vous parliez et que vous régularisiez votre situation. Tu aimes la fille d'autrui, tu veux la veux chez toi, épouse-la. Tu aimes le gars, tu penses que vraiment il est très bien. Tu aimes passer les week-ends chez lui. Va, ne l'épouse pas, qu'il t'épouse. Je ferme la parenthèse. Okay, l'alliance. Okay. Il y a... il y a une bénédiction qui ne se trouve que dans l'alliance. Et la Bible dit que ceux qui se comporteront méchamment contre l'alliance sont séduits par des flatteries. Maintenant, suivez-moi bien. Quand je parle de la bénédiction, et j'essaye de vous dire le maximum dans le temps qui m'est imparti, il y a une bénédiction qui, pour transiter d'un homme à un autre homme, a besoin de cause, a besoin d'une raison. Bon. Quand tu es dans l'alliance et que tu te comportes méchamment face à l'alliance, ça veut dire que tu renies l'alliance. Tu es sujet à la séduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut t'induire en erreur. Lorsqu'on parle d'Ève, Ève a été séduite, pas Adam. La séduction, c'est que Ève pensait que ce que le serpent disait était vrai. Quand tu as du mal avec les alliances, quand les gens te mentent, tu ne le sais pas. Tu prends le mensonge pour la vérité parce que toi, tu ne respectes aucune alliance. La plupart d'entre nous qui avons été à l'école, on a appris une fable, celle du corbeau et du renard. Maître corbeau tenait. Bon, je saute parce que le renard parle au corbeau. La fin de l'histoire, c'est que ce que le corbeau a dans le bec, le renard qui n'arrive pas à grimper et à l'atteindre, simplement par la séduction, va emmener le corbeau à lâcher ce qu'il tient dans son bec. Écoutez-moi bien, la fable termine en disant « Tout flatteur vit aux dépens. » Ça veut dire qu'à chaque fois que tu écoutes un flatteur, il te dépossède de quelque chose. La flatterie est une arme utilisée par ceux qui séduisent pour t'enlever ce que tu as. Et donc lorsque le diable veut te séduire, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu possèdes, dont il veut te déposséder. Mais il sait qu'il ne peut le faire que si tu renies l'alliance. Tu dois dire non à Dieu pour dire oui au diable. Tu ne peux pas dire oui à Dieu et en même temps oui au diable. C'est pour ça que vos Bibles disent, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Tu ne peux pas résister au diable sans d'abord te soumettre à Dieu. Regarde ton voisin, lui soumets-toi à Dieu. Si ce voisin ne te parle pas, c'est le mauvais voisin. Cherche un autre voisin. Dis-lui, soumets-toi à Dieu. À cause du temps, mon objectif ce matin, c'est de vous emmener à comprendre ce qui est nécessaire pour que finalement vous soyez pleinement ce que Dieu a dit que vous êtes. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Peut-être vous, ça t'embrouille. Tu es béni. Je dis, tu es béni. Tes affaires sont bénies. Tes relations sont bénies. Tes projets sont bénis. Je dis, ta vie est bénie. Non. Cinq types de relations nécessaires si vous voulez vivre une vie à succès sur la terre. J'en parle rapidement, je prendrai moins de temps qu'au premier parce que je veux développer la pensée qui est la mienne ce matin un peu plus que celle que ce que j'ai fait au premier culte. Cinq types de relations que vous devez choisir. J'ouvre la parenthèse ici pour vous dire, si vous êtes sur la terre des vivants, c'est que Dieu vous a donné le choix. Voici ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez. Il dit, tu as le choix entre la vie et la mort. Choisis la vie. Si tu as le pouvoir de choisir la vie, c'est que tu as le pouvoir de choisir tes relations. Si Dieu ne t'impose pas la vie ou la mort, c'est qu'il ne t'impose personne. Quand quelqu'un veut te faire croire que tu n'as pas le choix, cette personne t'induit en erreur. Je dis, tu as le choix. Tu as toujours le choix. Quel que soit ce que tu veux vivre, tu dois le choisir. L'évêque général qui dit, vivre, c'est choisir. Choisir Christ, c'est réussir, mais tu dois choisir. Donc, il y a cinq types de relations que, de mon point de vue, vous devez choisir d'avoir. La première, c'est le choix de sa divinité, le choix de son Dieu. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que c'est le Dieu de vos parents que ça doit être le vôtre. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans un environnement que vous devez l'accepter. La spiritualité n'est pas quelque chose qu'on avale ou qu'on prend n'importe comment. Ça affecte le destin. Il y a des vies qui ont été modifiées parce qu'ils ont simplement enlevé leurs chaussures au mauvais endroit. Parce qu'ils ont dormi là où ils ne devaient pas dormir. Parce qu'ils ont accepté qu'on fasse sur eux ce qu'on ne devait pas faire. Regarde ton voisin et lui choisis ton Dieu. Okay. Je dis rapidement, pour cette catégorie, je vous encourage à choisir un Dieu qui est plus fort que vous. Je vous encourage à choisir un Dieu qui est plus grand que vous. Je vous encourage à choisir un Dieu qu'on ne peut pas tuer. Je vous encourage à choisir un Dieu que vous n'avez pas besoin de porter autour de vos reins. Je vous encourage à choisir un Dieu qu'on ne peut pas briser. Oui, je vous encourage à choisir un Dieu que vous n'avez pas à tailler. Je vous encourage à choisir un Dieu qui est immuable, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est tout, qui ne change pas. Un Dieu qui demeure fidèle même quand vous êtes infidèle. Un Dieu qui ne se renie pas. Un Dieu qui dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. Je t'encourage à choisir un Dieu qui n'est pas un homme et qui n'est pas une femme. Je t'encourage à choisir un Dieu qui ne se trompe pas. Je t'encourage à choisir un Dieu qui ne renie pas ce qu'il dit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Juste au cas où tu ne sais pas de quel Dieu je parle du mien. Choisis ton Dieu, choisis ton Dieu. Maintenant, le choix de sa divinité, écoutez-moi bien, affecte le choix de votre communauté spirituelle. Vous ne pouvez pas adorer Dieu, le divin. Ne s'adore pas dans la chambre seulement. Toutes les spiritualités ont des temples. Tous les temples ont des autels. Sur chaque autel, il y a un sacrifice. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et vous n'avez pas d'église locale. Ton pasteur ne peut pas être ton oreiller. Ton évêque ne peut pas être ta couverture. Tu ne peux pas te retrouver à passer du temps régulièrement à la maison et dire que tu es spirituel. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens. Mais les chrétiens vont à l'église. Je vais redire ça. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens. Mais les chrétiens vont à l'église. Non, là où j'ai un problème avec le choix de votre divinité, le choix que vous dites que vous avez fait, c'est que si vous avez choisi votre divinité et que vous devez choisir votre église, l'église ne se choisit pas en fonction de sa localisation géographique. Écoutez-moi bien, c'est majeur, je prends le temps juste pour aider quelqu'un. Qui a choisi son école parce que c'était près de la maison? Son lieu de travail parce que c'était à côté? Je travaille ici parce que quand je sors, c'est à 100 francs de la maison. Le seul moment où vous faites des âneries comme ça, c'est quand vous choisissez votre église. Oh non, comme j'ai déménagé, je vais maintenant prier dans l'église qui est à côté de la maison. Ce que tu perds de vue, c'est que le choix de ton église affecte ta destinée. Pourquoi? Parce que même si Dieu est partout, Dieu n'est pas partout pareil. De la même façon, le discours n'est pas le même. Le message, la nourriture qu'on te donne n'est pas la même. Tu ne peux pas, je vais choquer quelqu'un mais c'est pas grave, tu ne peux pas aller dans une église où on t'interdit, où on parle contre la prospérité et réussir financièrement. C'est pas possible. Une église où on te dit que la politique c'est pas pour les chrétiens. Si Dieu voulait que tu sois maire, si tu es dans cette église, tu ne le deviendras jamais. La destinée s'entretient, se provoque. On y rentre, mais on n'y rentre pas seul. Même Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste. Premièrement, le choix de sa divinité. Deuxièmement, le choix de ses autorités. Je vois des gens, vous me regardez. C'est vrai que je... C'est vrai, mais écrivez. Prenez des notes, faites semblant. Après, vous n'allez pas relire, vous allez dire oui, mais j'ai oublié. Okay? Vous devez devenir comme les chrétiens de Bérée qui repartaient aux Saintes Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était correct. Okay? On ne veut pas de chrétiens immatures. On veut des chrétiens responsables. Deuxièmement, le choix de ses autorités. Dans la catégorie des autorités, j'introduis la paternité spirituelle, les mentors. Maintenant, il y a une différence entre un père et un maître, mentor. Voici ce que la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Quand bien même vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez cependant qu'un seul père, parce que c'est moi qui vous ai engendré. La différence entre le père et le mentor, c'est que le père engendre. Le père engendre. Maintenant, il y a aussi une différence entre un père et un patriarche. Tous les pères ne sont pas des patriarches, mais tous les patriarches sont des pères. Abraham est patriarche, Isaac est père, Jacob est père. Au niveau de CRN, nous sommes pères. Il y a des gens que Dieu connecte à nos cœurs, mais nous ne sommes pas les patriarches. Au niveau de CRN, il y a un patriarche, c'est l'évêque général, Mike Joctan. Ça veut dire que si tu es dans CRN, même si tu es le fils du révérend Richard ou la fille du révérend Richard, si tu es dans CRN, tu es la fille de l'évêque général. Tu ne peux pas être à CRN et vouloir la bénédiction que Dieu a donnée à son serviteur et ne pas être son fils. Parce que l'héritage, c'est pour les fils. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Okay. Moi, il y a des gens qui m'aiment, mais je leur ai dit, vous ne pouvez pas aimer l'eau et ne pas aimer la source. Surtout si vous êtes de la maison. Ça va? Ok, le choix de son père, sa paternité spirituelle. Maintenant, quelqu'un va dire, pourquoi c'est important d'avoir un père? Écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas sous autorité, vous n'aurez pas d'autorité. L'autorité, la capacité à commander le monde spirituel et le monde spirituel vous obéit. Cette aura autour de la vie d'un individu qui fait qu'on le respecte même si on ne comprend pas pourquoi. N'est accordée que parce que la personne est sous autorité. Si tu n'as pas d'autorité physique, tu n'auras pas d'autorité mystique. C'est clair? Maintenant, je pousse, même si vous ne voulez pas. S'il n'y a personne qui est capable de te dire « Assieds-toi » quand tu ne veux pas t'asseoir, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de te dire « Lève-toi » quand tu ne veux pas te lever. Si personne ne peut t'abaisser, personne ne peut t'élever. Isaac s'allonge, il voit son père lever le couteau contre lui. Mais Isaac, dans son cœur, se dit « Papa, si tu penses que me tuer, c'est bien, tue-moi. » Et la Bible dit que parce que Isaac a accepté d'être un sacrifice, Abraham l'a retrouvé comme par une résurrection. Si personne ne peut te tuer, personne ne peut te ressusciter. C'est clair? Troisième catégorie, c'est celle que j'appelle le choix de ses vis-à-vis, le choix de ses relations fraternelles, le choix de ses amis, le choix de ses collègues, le choix de ses collaborateurs, le choix de ses partenaires en destinée. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Suivez-moi bien. Le fer n'est pas aiguisé par le bois. Le fer ne peut être aiguisé que par le fer. Qu'est-ce que tu dis, évêque ? Je dis que la raison pour laquelle très souvent dans tes relations fraternelles, amicales, il y a des frictions, c'est parce que vous êtes pareil. Ce qui t'énerve dans cette relation-là, avec cette personne, c'est qu'elle est aussi têtue que toi. Tu aurais voulu que quand tu lui dises « Ah », elle dit « Oui ». Sauf que ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ta fille. C'est ton ami, c'est ton frère. Que Dieu vous délivre des amis qui ne sont pas capables de vous dire la vérité. Que Dieu vous donne des amis qui sont capables de dire « Tu exagères, tu as la longue bouche. » Tu te mêles trop des affaires des autres. Arrête un peu. Que Dieu vous donne des amis qui sont capables de vous garder dans le vrai. Okay? Et pour ça, vous devez avoir des gens, non, qui sont capables de vous tenir tête. Bref. Quatrième catégorie, c'est celle que j'appelle la catégorie des fils ou des successeurs. Le choix de ses fils, le choix de ses héritiers, le choix de ses successeurs. Ne passez pas tellement de temps à travailler sur l'héritage que vous oubliez de travailler sur les héritiers. Ne passez pas tellement de temps à bâtir un royaume que vous oubliez que ce royaume doit continuer après vous. Et vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas préparer la relève. Si vous ne travaillez pas sur vos héritiers, de toutes les façons, quelqu'un prendra votre héritage. Jacob est chez Laban, prophète. Pendant 20 ans, Laban va malmener Jacob. Le jour où Jacob dit trop, c'est trop, c'est parce qu'il va voir Joseph. Ça veut dire qu'il y a des fils, quand ils sortent de vos entrailles, quand vous les voyez, ils vous emmènent à savoir que la saison des peines est arrêtée. Il y a un type de fils, de filles qui donnent du repos à leur père. Il y a un type de fils, de filles qui couvrent la nudité de leur père. Je prie Dieu que tu sois un fils qui ne fasse pas la honte, mais en même temps que Dieu te donne des fils et des filles qui t'honorent et qui te donnent du repos.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ce podcast pour en écouter davantage. Restons connectés également sur les réseaux sociaux et le site internet michelambourouet.com. À lundi prochain, ici même, pour encore plus d'inspiration. Passez une excellente journée sous la bénédiction de Dieu. À très bientôt.